Dans la vie chrétienne, on établit, est-ce que des fois que ça y aille pas à 100% bien, comme une corde de guitare qui peut péter pendant un louange. Mais ça veut pas dire que Dieu est pas là. Là, si on se décourage avec « Ah, ben là, ça va mal, puis tout est après moi, puis on se laisse aller. » On est en train de faiblir dans la foi. À cause de quoi? À cause qu'on regarde aux circonstances. Sur quelle base qu'on peut dire que je le sais que Dieu est là avec moi, même si ça va pas bien? Sur quelle base? Parce que ça va bien qu'on pense que Dieu est là? Puis quand ça va mal, on va dire que Dieu est pas là? Pas du tout. Ce n'est pas à cause des circonstances qu'on sait que Dieu est là.
Il est tout le temps là.
À cause de quoi? Ah ouais, j'attends des réponses. À cause de ses promesses, c'est écrit dans sa parole, Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Dans toutes les circonstances.
Ça veut dire que ça y aille bien, que tu aies toutes tes cordes ou que t'en manques une, il est encore là. Ça ne l'a pas fait fuir. Je pense pas que c'était une épreuve trop forte pour lui. Qu'une de mes cordes pète, moi ça peut m'affecter, mais à Dieu ça ne l'affecte pas du tout. C'est sûr que là, je peux avoir des combos à garder mes pensées-là quand je pense comment là, tu y penses, mais faut que tu gardes tes pensées-là, tu continues à louer Dieu, puis si l'ennemi essaie de te mettre des doutes ou de mettre des paroles puis te décourager, c'est basé sur des versets. C'est basé sur des versets. Dieu est encore là, Dieu nous aime encore, puis même si on s'enfarge en sortant puis on se fait mal sur un genou, Dieu est encore là, puis Dieu nous aime encore, puis on est encore sauvés. Faut pas laisser les circonstances nous ébranler, voyez-vous? Parce qu'on est un peuple qui marche, non pas par la vue, mais on marche par la foi. La foi en quoi?
En Dieu.
Puis basé sur quoi? Sa parole. C'est la Bible qui est le vrai livre qui contient toutes les promesses, la révélation de Dieu. Toute sa volonté, c'est là-dedans. Fait que si c'est écrit là, même si ça semble dire le contraire d'une circonstance, si c'est écrit là, on met notre foi là-dessus. C'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. De marcher par la foi. C'est une petite étude que le Seigneur me donne encore. Je n'étais pas sûr pour dans quoi je voulais m'en aller, puis je ne voulais pas m'embarquer dans cela. Oh non, je vais en avoir encore pour 12 à 14 messages à prêcher sur la foi. Là, je voulais prêcher sur d'autres choses, puis les autres choses, les autres idées ne venaient pas. Il a fallu que je retourne à l'idée que Dieu voulait que je prêche, puis là, après ça, ça, tout est là. Merci Seigneur. De toute façon, c'est, je pense, un des sujets pas le plus important. Ils sont tous importants, les sujets, mais c'est un sujet très important pour la vie de tous les croyants. La foi. C'est quoi la foi? On a besoin d'apprendre c'est quoi la vraie foi qui plaît à Dieu. La foi biblique. Parce qu'il y en a beaucoup de choses dans lesquelles on peut mettre notre foi. Puis c'est relatif, la foi. C'est tellement vague, le mot foi. Je pense qu'il faut s'arrêter pour regarder ce que la Bible dit là-dessus. Fait que le sujet qu'on va commencer à regarder, c'est la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu parce que c'est Dieu qui est l'auteur de cette foi-là. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les gens mettent leur foi. Ils s'en vont travailler sans s'en rendre compte. Ils ont mis la foi que le toaster pouvait... Premièrement, ils ont mis leur foi que le cadran pouvait les réveiller. Ils ont mis leur cadran, puis le lendemain matin, ils se fient sur le cadran pour se réveiller. Donc, il y avait la foi que le cadran les réveillerait. On a entièrement mis notre confiance dans le cadran, après ça, on se lève. On a confiance que si on met nos toasts dans le toaster, puis on pèse sur le piton, les toasts vont griller. On a confiance que notre bouloir va marcher. On met notre eau, notre poudre. Parce qu'on n'aurait pas confiance, on n'oserait pas mettre le café dedans, puis l'eau. On a pleinement confiance, tellement confiance qu'on se casse même plus la tête sur quoi, dans quoi qu'on se confie. On fait les choses automatiquement, puis ça marche. Il y a beaucoup de choses qu'on pense même pas. On a confiance que si j'embarque dans mon auto, puis je décolle, je pense, je suis sûr qu'elle va partir, à moins que la veille, elle n'aurait pas parti. Mais ça part d'habitude, tu as confiance que ça part, t'embarques, tu t'en vas, tu as confiance que tu vas te rendre à ton travail. Puis, il y a plein de moments où ce qu'on met notre confiance dans toutes sortes de choses dans cette vie. Mais Dieu veut nous apprendre à mettre notre confiance en lui. Puis ça, c'est pas automatique. Lui, il est l'auteur de la foi. Il a mis dans l'humain la capacité de mettre sa confiance, de se reposer, de se fier, d'avoir l'assurance que ça marche, puis à un moment donné, tu t'en vas mécaniquement, ta vie avance dans plein de choses que tu as mis ta confiance, sans te casser la tête, tu vas travailler toute la semaine, puis tu y penses même pas, tu as confiance que ton boss met ta paye sans faire d'erreur dans ton compte de banque. Des fois, tu peux vérifier, c'est correct de vérifier, parce qu'une erreur peut arriver, mais tu as confiance qu'il va te payer. Puis s'il ne paye pas, mais tu sais qu'il y a des recours pour te faire payer, fait que tu peux aller au gouvernement, puis il y a d'autres moyens, mais disons que on a appris à mettre notre confiance dans tout le système qui est autour de nous. Puis dans un sens, c'est correct, parce qu'on n'a pas mis notre foi pour notre salut dans le système qui est autour. On a mis notre foi pour les choses temporelles. Mais Dieu a mis dans l'homme la capacité de faire confiance. D'avoir une assurance. Ça, on va développer ça, mais au niveau de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne à ce niveau-là. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont secondaires, comme le fait de mettre nos toasts dans le toaster, ça ne changera pas grand-chose dans le cours de notre vie. Tu peux mettre ta confiance dans ton toaster jusqu'au jour qu'il ne marche plus. Quand il ne marche plus, tu le prends, tu le jettes dans les poubelles, t'en achètes un autre. Ça y en a peut-être 30$, tu es encore bon pour un bout. On se casse pas la tête sur bien des choses. Mais il y a des choses éternelles qu'on doit préparer. Puis ça, ces choses éternelles-là, il est important qu'on mette notre confiance dans la bonne affaire. Combien est-ce qu'il y a des choses dans ce monde où on met notre confiance, puis on a fait une gaffe, un exemple. Un gars qui fait des placements à bourse, il s'en vient te voir, puis il dit, moi, j'ai une bonne passe, là, tu vas faire 50% de profit, là, il t'en dit des belles affaires. Puis là, toi, tu mets ta confiance en ce gars-là, tu dis, travaille là-dedans, puis quand il te parle, il a de l'air à connaître son affaire, tu lui fais confiance, tu places ton argent dans son affaire, première nouvelle que tu sais, t'as plus une scène. T'as mis ta confiance dans quelqu'un, puis tu viens de t'apercevoir qu'ils disent pas tout vrai. T'as mis ta confiance dans quelque chose de faux, puis t'as tout perdu. Fait que, à quelque part, quand t'accumules un paquet d'erreurs comme ça, un moment donné, faut que tu te dis, wow, là, je peux pas faire confiance aveuglément à tout ce qui est autour de moi. Il y a des choses, c'est pas grave, mais il y a des choses qui peuvent avoir un impact grave sur notre vie. Comme, fais-moi un exemple, fais confiance en quelqu'un qui dit, essaye tel médicament, c'est bon pour ton problème, mais il est pas médecin, gars. Lui, il dit son opinion sur une affaire qui a même pas rapport, puis il connaît pas ça, mais il dit n'importe quoi. Là, nous, si on croit à ça, puis on commence à prendre ça, puis on va pas voir les vraies personnes concernées pour te soigner, puis cette personne-là te emmène à prendre un médicament qui est pas bon pour ton affaire, tu risques de beaucoup aggraver ton cas. Voyez-vous? Fait qu'il y a des choses qui sont bonnes de faire confiance dans ce qui nous entoure, ça n'a pas d'impact. Mais si on parle au niveau de l'éternité, on ne peut pas prendre la chance de passer à côté puis de ne pas avoir mis notre confiance dans la bonne affaire pour être sauvé. Le Seigneur veut nous parler sur la seule chose qui, pour lui, a de la valeur dans ce monde. Quand il regarde les humains, qu'est-ce que Dieu trouve qu'il y a de la valeur quand il regarde ces humains de la manière que ça roule présentement? L'ensemble de l'humanité a corrompu sa voix. L'ensemble de l'humanité a désobéi à Dieu. L'ensemble de l'humanité vit dans la rébellion et dans le péché, puis sont sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que Dieu peut trouver d'agréable dans tout cela? Ah, là, on commence à arriver à quelque chose que Dieu va commencer à aimer. Voir des gens qui ont de la foi. Malgré que tout est à l'envers, il y a du monde quand même qui décide de croire en Dieu puis de s'attacher à lui. Il y a plusieurs types de personnes sur la terre. Il y en a qui ont cherché de toutes sortes de moyens pour plaire à un Dieu. Puis là, ils se sont inventés un paquet de religions. Malgré que la révélation est donnée dans la Bible, les gens ont comme une poussée intérieure à vouloir avoir un Dieu, mais là, vu qu'ils vont pas consulter la Bible, ils s'en inventent une. Là, ils s'inventent une religion. Ils ont toutes les raisons de penser que le manière de voir les choses, ça a de l'air bon, ça a de l'air correct, c'est moralement acceptable, ils ont de l'air à s'aimer, ils ont de l'air à vivre quelque chose ensemble. Mais est-ce qu'à cause que ce groupement-là s'unit pour arriver à avoir une même pensée, est-ce que ça veut dire que c'est biblique? Est-ce que ça veut dire que c'est ça que Dieu voulait? Pas du tout. Parce qu'il y a des milliers de religions sur la terre, des dizaines de milliers de religions sur la terre, puis il y a juste une seule Bible. Fait qu'à quelque part, il y en a peut-être qui disent des menteries. Il y a d'autres sortes de groupements, que c'est le contraire, des groupements de personnes qu'eux autres, leur spécialité, c'est vouloir vivre une vie sans Dieu. Ils veulent vivre la vie, mais ils veulent la vivre sans avoir un souci de dire, faut que je pense qu'il y a un Dieu qui est là. Ils veulent l'oublier, l'ignorer. Ils l'enlèvent de leurs écoles, ils l'enlèvent de leurs livres, tout le mot Dieu partout. Ils veulent pas entendre ce mot-là. Ils se disent, on est créés, on est des individus, puis peut-être même qu'ils se pensent Dieu eux-mêmes. Puis là, on n'a pas besoin de se bordeler pour un mode de vie, vivre pour un Dieu. On marche comme ça se présente devant nous. Si on a un petit buzz, un petit feeling de dire, je veux faire telle affaire, mais ils font, puis ils se cassent pas la tête, puis même si ça déplaît à Dieu, ils suivent ce chemin-là. Puis ça, il y en a des milliards qui font ça, qui ne soucient pas de connaître Dieu, puis vivent leur vie comme au jour le jour, dans tout ce qui peut se présenter, quitte même à écraser ceux qui sont autour. S'ils veulent quelque chose, ils vont le chercher, puis ça ne leur fait pas rien face à ce Dieu-là. Depuis des millénaires, des milliers d'années, que Dieu tente d'amener les gens à croire en lui, à s'attacher à lui, à marcher avec lui. Dieu tend ses bras pour attirer, il veut attirer tout l'ensemble de l'humanité. Il ne veut pas mettre dehors personne. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis l'Esprit Saint travaille pour attirer les gens. Puis il y a eu des gens qui étaient là comme des envoyés de Dieu, des gens qui avaient trouvé Dieu dans le vrai chemin de Dieu, sont envoyés par Dieu pour attirer les gens à aller vers Dieu. Il y en a qui suivent, puis il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Mais le désir de Dieu, c'est de les attirer, toute la gang. Venez à moi, je suis Dieu. C'est ça que Dieu dit. Il dit, écoutez ce que je vous dis. Mettez en pratique ce que je vous dis. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais il est-tu fatigant, ce Dieu-là, vouloir être haut, nous dicter quoi faire? Ils comprennent pas. Ils se disent, moi, je suis disciple, puis c'est le fruit du hasard, là. C'est une erreur dans tout l'univers. C'est un hasard que je suis là, puis ils veulent vivre leur vie, puis en profiter à plein, sans soucier qu'il y aurait peut-être un créateur qui aurait tout mis ça là. Puis ils veulent plutôt ignorer cette dimension-là pour pas se sentir coupable puis de se dire qu'ils seront obligés de le suivre. Ils veulent ignorer Dieu. Mais pourquoi Dieu veut-il à tout prix amener les gens vers lui? Que vous pensez?
Parce qu'il nous aime.
Il veut nous sauver. C'est à cause de notre état. C'est parce qu'on réalise pas notre état. Parce qu'on réalisera réellement notre état, consciemment, là, qu'on est pécheur, séparé de Dieu, puis qu'il y a un jugement éternel qui s'en vient, puis mes péchés m'empêchent d'entrer dans la vie éternelle. Si tout le monde réalisera, tout le monde sera à genoux devant Dieu, présentement. Dieu a créé tout le monde sur la planète pour que tout le monde se mette à genoux devant lui, puis qu'il réclame sa grâce pour être purifié. Parce que sinon, on est perdu, tout le monde est perdu, puis ils le sont réellement, même s'ils ne savent pas. Mais c'est pas parce que Dieu ne voulait pas les sauver, c'est les gens qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui parlent à la radio, à la télévision, sur Internet, partout la bonne nouvelle est annoncée. Mais les gens, il y a mieux, ils préfèrent les ténèbres à la lumière, de peur qu'ils réalisent que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ça que Jésus dit. Dans Isaïe 45, le verset 22, Dieu le dit, « Tournez-vous vers moi. » Il veut que les gens se tournent vers lui. Il dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu, il y a un verset dans le Nouveau qui dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut sauver tout le monde. C'est pas parce que Dieu manque de puissance. Dieu l'a montré, sa puissance. Quand tu lis les écrits de l'Ancien Testament, tu vois sa puissance, comment est-ce qu'il a agi pour le peuple juif en Égypte, comment est-ce qu'il a agi à travers Jésus. Sa puissance, il l'a montré, il a déjà fait ses preuves pour démontrer qu'il était Dieu. C'est juste, veut-on chercher? Si les gens veulent le chercher, ils vont le trouver. Il dit, tournez-vous vers moi dans Isaïe 45, 22, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, puis il n'y en a point d'autre. Il est clair, Dieu, il avertit tout le monde, il n'a pas deux, il n'a pas dix, il n'a pas cent, il n'a juste un seul Dieu. Puis ce Dieu-là nous dit, ce Dieu-là qui a créé tout ce qui est là, c'est volontaire, tout, il a voulu créer le système tel qu'il est là, pas corrompu comme ça, mais il savait que ça aboutirait comme ça, mais c'était pas ce que lui a fait, c'est qu'est-ce que les humains ont fait avec le système, parce que les humains ils ont été créés libres, puis là, les humains détruisent qu'est-ce que Dieu a fait. Mais quand Dieu regarde tout cela, il appelle tout le monde, puis lui dit, venir à lui, et vous allez être sauvés. Mais aux yeux de Dieu, y voit-il quelque chose de bon dans ceux qui ne croient pas en lui? Pas du tout. Dieu voit rien de bon dans la vie d'une personne qui ne croit pas en lui. Parce que l'ensemble de l'humanité est souillé par leur péché. Tout ce qu'ils font, tout le monde, ce que nous-mêmes aussi on a fait, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, on était dans le péché par-dessus la tête avant qu'ils viennent nous chercher. Qu'est-ce qu'on faisait qui était agréable à Dieu quand tu es souillé de la tête aux pieds, que tu pues le péché? Parce qu'aux yeux de Dieu, ça pue le péché. C'est quelque chose qu'il ne peut pas sentir. Il peut pas, le pécheur ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Dans Tite 1.15, ça nous dit, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, et rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. » Si une personne est incrédule, ça veut dire qu'elle ne croit pas en Dieu. Mais il n'y a rien qui va être pur pour cette personne-là. Tout ce qu'il y a aux yeux de Dieu, tout ce que cette personne-là va dire ou va faire, ça va être souillé. Ça va être sale. Parce que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Depuis le début de la création, la Bible nous témoigne qu'il y a eu dans l'histoire certaines personnes qui ont cru en Dieu puis qui ont marché avec Dieu. Malgré qu'ils étaient des pécheurs, tous les humains sur la terre sont descendants d'Adam et Ève, on a toute la même nature, mais malgré qu'ils étaient des pécheurs, il y a eu des personnes depuis le début de la création qui ont répondu à l'appel de Dieu. Comme Abel, par exemple, qui est le premier fils d'Adam et Ève. Il y a eu Caïn et Abel. Les deux premiers fils, là, il y en a un qui a tué l'autre. Mais avant que son frère tue, Caïn tue Abel, les deux avaient présenté une offrande à Dieu. Puis ils cherchaient Dieu. Puis Dieu a donné un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce gars-là? Ça dit, Abel, de son côté, il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau. On voit ça dans Genèse 4.4. Il a pris une brebis de son troupeau, puis il a offert ça à Dieu. puis leur graisse. Puis l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et son offrande. Puis Abel, sa vie, ça dit pas qu'elle était si longue que ça, mais elle était assez pour s'approcher de Dieu. Puis Dieu aimait Abel dans sa manière de se présenter à Dieu. Jésus a appelé Abel, j'ai oublié de me prendre la note, mais c'est écrit que Jésus a appelé Abel, il a appelé Abel le juste. Aux yeux de Dieu, Abel était déclaré être un juste. C'est-tu parce qu'il était meilleur que les autres? Non. Parce qu'il avait compris que Dieu était là, il savait que Dieu était là, puis il s'est approché de Dieu avec ce que Dieu aime, ce que Dieu agrée. Il voulait marcher avec Dieu, il voulait plaire à Dieu, il servait Dieu de la façon ce que Dieu le demandait. Il aimait Dieu. Dieu l'a déclaré juste. Une couple de centaines d'années plus tard, il y a un autre personnage qui s'appelait Enoch. C'était la même affaire. Dans Genèse 5, le verset 24, ça nous parle que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça nous dit dans ces passages-là qu'Enoch, il a marché 300 ans avec Dieu. Ça nous dit pas qu'au début de sa vie, il était avec Dieu. Mais qu'à un moment donné, il y a eu un fils, puis après ça, il a marché avec Dieu. Puis là, il aimait Dieu, puis il était accroché à Dieu. Il a tellement plu à Dieu que Dieu est venu chercher. Pourtant, était-tu meilleur que les autres? Non, il était dans la même nature de péché que tout le monde de son époque, la même nature de péché que nous aujourd'hui, mais il plaisait à Dieu. Pourquoi qu'il plaisait à Dieu? C'est parce qu'il aimait Dieu, il avait la foi en Dieu, il avait confiance en Dieu, puis il croyait en Dieu, puis il voulait suivre Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Un peu plus tard, une couple de versets plus loin, mais ça pouvait être peut-être 1500 ans plus tard, il y a eu Noé, dans Genèse 6, versets 8 et 9, la Bible nous parle de Noé, qui est une autre personne qui marchait avec Dieu. Ça nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là, ça nous dit, voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quand est-ce qu'il y avait Noé comparativement aux autres gens de son époque? La Bible nous le dit. L'ensemble des humains qu'il y avait autour de lui avait corrompu sa voix. Tout le monde marchait tout croche. Mais Noé, il aimait Dieu. Il marchait avec Dieu. Puis il était juste et intègre. À cause de quoi? À cause de sa foi. Dieu, ça nous dit pas que Dieu lui apparaissait en vision tout le temps. Non. Peut-être qu'il l'a jamais vu, mais il l'entendait. Où est-ce qu'il entendait Dieu? Mais il était à l'écoute. Il priait. Il écoutait Dieu. Puis il demandait des choses à Dieu, puis Dieu lui répondait. Il avait une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'en cherchant Dieu, il l'a trouvé. Là, il a pu marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Une couple de centaines d'années plus tard, ça nous parle encore dans la Bible d'un autre personnage qui croyait en Dieu, qui marchait avec Dieu, en parlant d'Abraham, que son nom était changé pour Abraham. Dans Genèse 15:6, ça nous dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, puis ça lui a été imputé à justice. » C'est qu'il a eu confiance en l'Éternel, puis a été déclaré par l'Éternel juste. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham était encore différent du reste des gens de son époque? C'est qu'il avait la foi. Il croyait en l'Éternel, il parlait à Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé des choses, puis il a obéi. Il marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça l'a fait de marcher par la foi avec Dieu? Ben, il a été déclaré juste, puis il fait partie des sauvés, puis il a eu des promesses. On a encore les effets de sa promesse. On est 4000 ans peut-être plus tard que de son histoire. Puis encore des promesses d'Abraham sont en train de s'accomplir. Dieu a dit, tu vas avoir une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Puis on fait partie, nous, les enfants de Dieu, de la descendance d'Abraham, des héritiers selon la promesse. La promesse faite à Abraham que ce gars-là qui était comme tous les autres, Mais la différence des autres, c'est qu'il marcha par la foi. Il croyait en Dieu. Ça dit, Abraham eut confiance en Dieu. C'est ça, la foi. C'est d'avoir confiance en Dieu. La foi, c'est pas de savoir que Dieu est là. La foi, c'est de faire confiance en ce Dieu-là. Tu sais qu'il est là, mais en plus, tu lui fais confiance. Tu veux vivre avec lui. Tu veux l'écouter. Tu veux bâtir ta vie sur ce qu'il te dit. C'est ça, là, la vraie foi qui sauve. La foi qui a fait, qui a été déclarée juste. Avant le début de la création, là, avant que Dieu ait établi là, même la première molécule de tout l'univers, l'univers physique, Dieu savait très bien que ce ne seraient pas tous les hommes qui croiraient en lui. Dieu savait, avant même de créer tout ce qui est là, il savait que ce n'est pas tous les humains qui vont être créés, que ce n'est pas tous ces humains-là qui vont le suivre, puis qui vont le servir, puis qui vont l'aimer, puis qui vont marcher par la foi. Dieu savait. Ça l'a-t-il empêché Dieu de le faire?
Non.
Non. Parce que ça nous le dit dans Romains 3:3. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non. Même s'il y en a qui ne croient pas, même s'il y a des gens qui ne sont pas fidèles, même ceux qui devaient travailler pour Dieu n'ont pas été fidèles et qu'ils ne l'ont pas fait, Dieu demeure fidèle. Dieu a voulu quand même créer l'univers et tout ce qu'il y a là. Pourquoi? Pour aller chercher les quelques-uns qui vont avoir la foi. C'est quelques-uns comparativement à la multitude de monde qui a vécu. Il n'y avait que quelques-uns qui sont comme les ceux que Dieu trouve agréables puis que ça valait la peine quand même de tout créer pour ceux-là. Ceux qui étaient pour marcher par la foi avec lui. Avec une confiance en ce Dieu-là. Et on fait partie de ce gang-là. Merci Seigneur. Ceux qui possédaient la foi et qui marchaient par la foi, ils ont été approuvés par Dieu. Même si l'ensemble méritait juste, hein, j'envoie le déluge, puis j'ai détruit tout, mais il y a quand même Dieu, il trouvait ça tellement spécial que ce que Noé, ce qui vivait par la foi, puis il aimait Noé, puis il était content de Noé, qu'il a décidé de s'arranger à préserver la vie de Noé puis ses enfants. Il a fait bâtir l'arche pour recommencer l'histoire humaine à travers la descendance de Noé. Puis quand Dieu est content, quand Dieu est content de voir des personnes qui marchent par la foi, mais Dieu lui donne des bonnes notes à la fin de leur vie, comme. Tu sais, t'as un bon témoignage, Dieu est fier, puis il va te dire bon et fidèle serviteur. T'es pas parfait, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais quand tu marches par la foi, ça plaît à Dieu. Puis Dieu cherche des gens qui marchent par la foi. Dans Hébreux 11:2, ça nous dit, pour avoir possédé la foi, les anciens, en parlant des personnages qui ont marché par la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. Dieu les a bénis, Dieu les a fait des alliances, Dieu les a fait des promesses, Dieu était avec eux, puis Dieu les bénissait dans tout ce qu'ils entreprenaient. Ils aiment ceux qui marchent par la foi. Là, on veut comprendre, ouais, moi, ça m'intéresse, je veux en savoir plus sur la foi. C'est quoi la foi? On a besoin de l'apprendre, frères et sœurs. Puis si on en parle, puis je pense que vous le savez déjà, mais il y en a d'autres qui écoutent ces messages-là sur Internet. Puis il faut que tout le monde sache c'est quoi la foi qui est agréable à Dieu. C'est ce qu'on veut développer dans l'étude. Comprendre que Dieu, quand il regarde les gens, il veut voir de la foi dans ceux qui écoutent. Mais ça, les bénédictions sont pour ceux qui marchent par la foi. Mais c'est quoi la foi que Dieu s'attend? Ça veut dire quoi la foi? Bien, la foi, on le voit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Ce verset-là, il résume la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une confiance. Puis c'est aussi une démonstration, une preuve. C'est comme si il y a quelque chose qui se produit. Vu que tu as l'assurance, tu vas faire des gestes, tu vas faire des pas, tu vas prouver, tu vas passer aux actes. Voyez-vous, c'est ça la vraie foi. Contrairement à ce qu'on pense, la foi n'est pas juste une croyance. Parce que s'il y en a qui pensent qu'ils croient qu'un chat noir porte la malchance, mais c'est juste une croyance, ça, là. Ils croient ça, mais ça a-tu réellement... C'est-tu ça de la foi? Pas du tout, parce que tu peux envoyer des chats par après, puis ça ne te dérangera même pas de lui donner un coup de pied en passant. Tu n'auras pas peur. Tu as une façon de parler. Non, mais il y en a qui c'est comme ça. Ils n'auront pas peur. C'est pas réellement une croyance, une confiance ou une assurance que le chat il est dangereux. C'est juste, ils pensent que c'est ça. Mais juste une pensée de même, comme un exemple, est-ce qu'il y a de quoi d'extraordinaire de dire que Dieu existe? Les démons aussi disent que Dieu existe, mais ils marchent pas selon les voies de Dieu. Juste le savoir, juste une croyance, c'est pas juste ça, la foi. La foi, c'est plus que ça. La foi, c'est une ferme assurance, une confiance, puis qui va t'amener à démontrer, une démonstration, à faire des preuves de ce que tu crois. Excusez. Fait que dans Hébreux 11:1, ça nous dit, or, la foi, c'est une ferme assurance, c'est une confiance intérieure. Tu as lu la parole, tu te l'es fait expliquer, puis tu crois. Tu as une ferme confiance, tu as une assurance que ce que tu entends, parce que ça vient de la parole de Dieu, tu as confiance que c'est vrai. Puis là, quand tu le prends, parce que tu en as confiance, tu passes aux actes, tu fais ce qu'il te demande. Fait que ça dit une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le mot grec, le mot foi, le mot foi dans le dictionnaire biblique, ben du mot grec, parce que c'est un mot en grec, ça, que le Nouveau Testament est écrit en grec, il a été traduit par plusieurs mots. Foi, fidélité, grâce, preuve, certaine, croire, conviction, croyante, engagement. Ça, c'est des synonymes un peu du mot foi. C'est une conviction de la vérité. T'es convaincu, là, si on y va avec les définitions, là, t'as une conviction en la vérité. C'est pas, wow, Jésus est mort sur la croix, puis ça, c'est comme si c'était une donnée parmi d'autres. Jésus est mort sur la croix, mes taux sont brûlés à matin, fait que c'est comme juste une idée. Non, c'est pas juste une idée. C'est Jésus, il est mort sur la croix, pardonner mes péchés. Alléluia! Tu sais, t'es convaincu, tu l'as accepté, t'as mis ta confiance là-dedans, puis tu crois, tu vois-tu? Tu crois, mais avec confiance, avec assurance, puis ça t'a fait de toi que tu t'es engagé à suivre Jésus. C'est ça qui est la foi. C'est une conviction en la vérité. T'es convaincu. Si quelqu'un vient même t'en parler, puis dit le contraire, voyons donc, c'est pas ça. Hey, laisse faire, moi je le sais, je suis convaincu, t'as rien qui va me changer mon idée, je suis convaincu. T'sais? C'est ça la foi, t'es convaincu, c'est pas juste le savoir, t'es prêt à mourir pour cette idée-là. C'est ce qui est arrivé avec les premiers disciples. Il y a les humains étaient méchants dans ce temps-là, puis ils s'opposaient à l'enseignement de la parole de Dieu, puis ils défendaient les gens de parler de Jésus. Puis eux autres, il n'en est pas question, nous autres, on croit, puis tu ne viendras pas nous dire d'arrêter. Puis ils ont été jusqu'à se faire tuer à cause du nom de Jésus. Fait que tu as une ferme conviction sur la vérité qui sort de la parole de Dieu. Tu as une ferme conviction que Dieu est là. Tu as une conviction que Dieu existe, bien entendu. Tu as une conviction ce qui concerne Jésus qui est venu v'là 2000 ans, qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Tu as une conviction forte que Jésus est venu, il était le Messie, puis qu'à cause de son œuvre qui est mort sur la croix, il a versé son sang pour que tu puisses être pardonné. Tu l'as, cette conviction-là. Tu le sais, c'est ça la foi. Il n'y a personne qui peut t'enlever cette idée-là, puis tu sais que c'est à cause de ce que Jésus a fait que tu es pardonné. Tu sais que t'es pécheur, tu sais que qu'est-ce qu'il a fait Jésus, c'est ça que, qui permet de pouvoir être lavé de tes péchés. Il y a rien qui va, qui même si quelqu'un viendra te faire des preuves pour essayer de te dire c'est pas vrai, ça a pas existé. Toi, t'es à cheval sur ton idée, puis tu gardes une assurance. C'est ça la foi devant Dieu. Prête à défendre ton bout. Puis tu sais, pourquoi tu sais? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis s'il y a un ciel, c'est dans la parole de Dieu, c'est écrit. S'il y a un enfer, c'est dans la parole de Dieu. S'il y a une vie éternelle, c'est dans la parole de Dieu. S'il y a un jugement après la mort, c'est dans la parole de Dieu. Si on sait qu'on est pécheur, c'est dans la parole de Dieu. Si on sait que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, c'est dans la parole de Dieu. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre notre confiance dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce qui demeure éternellement. Puis tout ce qu'on peut savoir, ça vient de la parole de Dieu. Même si quelqu'un arrive et essaie de nous dire d'autres choses pour essayer d'ébranler notre foi, je regrette, c'est écrit ça dans la parole de Dieu. On a mis notre foi dans la parole de Dieu. Pour nous, il n'y a rien qui va nous faire changer. C'est ça la foi qui sauve. Une fidélité à toute épreuve. Peu importe ce qui arrivera, faut jamais laisser l'ennemi gagner sur nous autres. Parce que le prix, c'est pas léger, c'est la vie éternelle. On peut dire, ouais, mais on faut en prendre, faut en laisser. Non, je regrette. Il n'y a pas d'en prendre puis d'en laisser. Tu la prends toute ou tu la laisses toute. Tu peux pas prendre juste la moitié de la Bible. Sinon, ta foi, elle ne tient pas debout. Tu y crois à Dieu ou tu y crois pas? Si tu penses que c'est un autre Dieu qui est Dieu, vas-y, dépêche-toi, parce que là, tu vas passer à côté de ton salut. Mais il n'y en a pas d'autre Dieu qui promet la vie éternelle puis qui peut effacer vos péchés. Il y a juste Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a envoyé son Fils. Puis c'est annoncé d'avance par des prophètes. Puis ça s'est tout accompli comme ça avait été annoncé sur des milliers d'années. Puis quand Jésus est venu, tout est accompli. Tous les écrits à son sujet, il y avait au-dessus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été accomplies quand Jésus était sur la terre. 300, pas une. Ou une parole tellement abstraite que tu peux même pas savoir. Il y a 300 paroles annoncées d'avance dans la Bible qui ont été accomplies lorsque Jésus est venu sur la terre. Croyez-vous que vous êtes sauvés par la foi?
Oui.
Là, si on continue l'histoire de l'humanité, due à la déchéance des hommes, sans la foi, parce que les hommes marchaient sans foi, ni loi. Toute chair avait corrompu sa voix. Tout le monde marchait dans rébellion contre Dieu. Tout le monde se prosternait devant des faux dieux. Tout le monde avait là où il était ignorant de Dieu, puis parce qu'ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas le chemin. Ils marchaient d'une manière qui déplaisait à Dieu. Il n'y avait rien dans l'homme qui pouvait plaire à Dieu. Hébreux 11:6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Fait que peu importe si c'est ma tante, mon oncle, grand-maman, était tellement fine d'aller élever 28 enfants, mais aux yeux de Dieu, ça compte pas. Si elle n'a pas la foi, c'est pas agréable pour Dieu. C'est pas ça que Dieu... C'est pas le nombre d'enfants qui compte, c'est... Tu marches-tu par la foi? T'es-tu accroché à Dieu? Tu crois-tu Dieu? Tu crois-tu la parole de Dieu? Tu marches-tu avec Dieu? C'est ça qui compte pour Dieu. Le reste, t'as aimé beaucoup d'humains, t'as vécu, t'as donné tes biens aux pauvres, mais si t'as pas la foi pour être pardonné de tes péchés, t'es encore quelqu'un qui est tout sale dans ses péchés, puis t'es perdu. Faut que tu y ailles à Jésus. Comment un individu pécheur peut-il réaliser son état, s'approcher de Dieu et plaire à Dieu? Comment ça peut arriver?
En étudiant les lois.
Oui, mais même si tu les étudies, si tu es déjà toute sale, pécheur, tu es déjà tout croche, comment tu peux penser de t'approcher de Dieu si tu es déjà tout sale? Mais parce que l'idée de dire si je commence à commettre ces lois, c'est comme si je dis je vais au dépanneur, j'ai une dette déjà de 500$ que j'ai fait marquer mes épiceries, que je dois encore 500$ au dépanneur. Fait que là, je dis au propriétaire du dépanneur, à partir d'aujourd'hui, là, je paye tout cash. C'est correct. Tu payes tout cash, tu commences à payer cash, tous tes nouvelles achats. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive avec la dette de ton 500$ que tu dois? Même si à partir d'aujourd'hui, tu pratiques tout ce que tu avais à pratiquer là, dans la loi. La dette est encore là de toute la dette des autres fois que tu ne l'as pas faite. C'est une dette, ça, là. Ton âme est toute souillée. C'est le seul moyen, parce que il faut que Dieu te fasse un cadeau. Il faut que Dieu te fasse un cadeau de t'effacer tout ça. La dette que tu dois, il faut qu'il te fasse un cadeau parce que sinon, tu restes avec la dette et il faut que tu payes ta dette. On est responsable de notre dette. Mais la première étape, c'est de commencer à comprendre ce que Dieu a enseigné là, sur les choses de base, comment faire pour être pardonné. Tu commences par lire la Bible et croire en ses écrits qu'il nous a révélé que premièrement, dans Galates 3:22, ça nous dit « L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui a été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Voyez-vous, même si ça arriverait à dire « Je vais gagner mon ciel parce que je vais vivre la vie la plus sainte que passe à la terre. » Tu n'as pas encore réglé ce qu'il fallait. Il dit la Bible, les Écritures ont tout renfermé dans le péché afin que ça soit possible d'être sauvé uniquement par l'œuvre de Jésus, son sacrifice qu'il a fait en mourant sur la croix. Il veut t'amener premièrement à ce que tu mettes ta foi sur Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout ce que Dieu a promis dans sa parole, tu peux l'obtenir uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est donné à ceux qui croient. La Bible dit aussi que le salaire de nos péchés, c'est la mort. La Bible a tout renfermé dans le péché, c'est-à-dire tout le monde est enfermé dans l'idée « Nous sommes tous des pécheurs, on a toute une tonne de dettes à payer. » Mais la Bible dit que le salaire de nos péchés, c'est la mort. Il faut régler ça, cette dette-là. Il faut comprendre que le don gratuit de Dieu, c'est un don qui est gratuit, pas parce qu'il est cheap, c'est pas la première fois que je le dis, mais il faut comprendre que c'est un don gratuit parce qu'il est obligé de te le rendre gratuit parce que tu n'auras jamais été capable de te le payer, ce don-là. Fait qu'il a fallu que Jésus le paye, ce que ça coûtait, pour que ça devienne gratuit. Mais c'est pas parce que c'était gratuit, c'est parce que c'est déjà payé. Fait qu'on aura pu écrire à la place le don déjà payé par Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce que ça nous dit dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, si tu veux commencer à croire en Dieu, mais commence par croire ce que la Bible nous dit sur comment faire pour régler la dette de tes péchés. Crois que t'es pécheur. Oui, on l'est tous été pécheurs. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'a jamais fait de péché? Personne ne lève la main, c'est correct. Donc, on avait besoin de quelque chose pour s'en sortir. C'est ce que Dieu a fait. Il a pourvu pour que je puisse être sauvé. Puis saisir ce cadeau-là gratuitement, mais ça me prend quelque chose pour le saisir, on va le lire. La foi en l'œuvre de Jésus sur la croix, mais c'est le seul moyen voulu par Dieu pour qu'on puisse s'approcher de lui. Fait que si quelqu'un dit, moi, je veux apprendre à connaître Dieu, je veux apprendre à marcher avec Dieu, première chose, tu dois savoir, faut qu'il règle la dette de tes péchés. Tu sais-tu que t'es pécheur? Il va dire, oui, je le sais. Mais il dit, Jésus, il est venu, puis il est mort sur la croix, voilà, 2000 ans. Il est mort sur la croix pour pardonner tous tes péchés. Première chose que tu dois mettre ta confiance, c'est mettre ta confiance que Jésus a payé pour toi. Mets ton assurance, ta confiance que tu vas rentrer au ciel, pas parce que tu étais meilleur que les autres, on est tous des pécheurs, mais on va rentrer à cause que Jésus a tout payé. Là, mets ta confiance que c'est Jésus qui te sauve, qui a versé son sang pour toi. Mets ta pleine assurance, ta confiance, accroche-toi à cette idée-là, puis lâche-la pas, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui nous sauve. Yeshua. Amen.
Amen.
Jésus l'a dit dans Jean 8, 24. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Il a dit ça à du monde. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si les gens ne croyaient pas qu'est-ce qui était Jésus et qu'est-ce qui était pour faire, ils vont mourir dans le péché. Faut que tu le saches. Et c'est ce qu'on s'efforce à répéter régulièrement pour que tout le monde le sache. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus le dit autrement, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a d'autres places qui dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est le seul moyen pour être lavé de cette dette-là. Le seul moyen de le saisir est non par la religion, mais par la foi en son sacrifice. Dans Éphésiens 2, 8, ça nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau que Dieu nous donne d'être sauvés. C'est par le moyen de la foi. Qui ça qui doit avoir la foi? Ceux qui veulent le cadeau. Si tu veux le cadeau d'être sauvé, il y a un seul moyen que l'humain peut prendre pour saisir ce cadeau-là. C'est pas une religion, c'est pas des philosophies, c'est pas des bonnes thérapies, c'est pas même se mettre à jeûner et donner ta chemise à tout le monde, c'est pas ça qui va faire que tu vas saisir le cadeau. Le seul moyen de saisir le cadeau, c'est de mettre une pleine confiance, une pleine assurance que Jésus l'a payé pour toi, puis tu l'acceptes comme ton sauveur. Tu le dis. Parce que si tu le reçois, là, mais la démonstration, la preuve, si tu vas commencer à en parler de suite. Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je m'en vais au ciel, pas parce que j'étais meilleur que les autres, mais son sacrifice, c'est pour pardonner mes péchés. Si je suis sauvé, parce qu'il a déjà tout accompli, j'ai juste à prendre son cadeau par la foi. Je mets ma confiance dans tout ce qu'il a fait, puis je regarde pas ailleurs, je magasine plus un moyen d'être sauvé. Je suis 100% convaincu que je le suis à cause qu'il a tout accompli.
Amen.
Gloire à Dieu! Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Ça vient pas de vous parce que tu aurais été un bon gars. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu te donne. Tu le saisis juste par la foi. Voyez-vous comment c'est important, la foi? Puis là, il y a un dernier verset qui nous dit, approchez-vous de Dieu pour l'accepter et vous serez sauvés. 1 Pierre 1,9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Seigneur, je te remercie de nous avoir fait comprendre le moyen d'être sauvé. Même si ça fait 35 ans qu'on l'a entendu, on est encore excessivement heureux de se le rappeler puis de le répéter. Puis on veut que tout le monde le sache comment faire pour être sauvé. Puis merci de ton sacrifice à la croix que tu as fait voilà 2000 ans. C'est encore pleinement d'actualité, puis ça a sauvé ma vie, puis ça va sauver d'autres vies. Seigneur, garde-nous dans la foi, qu'on persévère dans la foi en ton sacrifice. Il n'y a rien d'autre que tu trouves important, bien nous aussi on trouve qu'il n'y a rien d'autre qui est aussi important que ce que tu as fait. Merci de ce que tu as fait pour chacun de nous, de nous avoir donné une place dans ton beau royaume. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.